Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, je vous ai parlé de l'enfer en vous expliquant ce qu'il en était réellement selon la parole de Dieu. Si l'enfer est un lieu dans lequel le méchant brûlera pendant toute l'éternité, subissant d'atroces tortures, entouré de démons, le tourmentant sans cesse, quelle pourrait être votre réaction si un de vos enfants devait s'y trouver un jour? Le paradis céleste, qui est promis par certaines religions de ce monde, serait-il réellement un paradis pour vous? Votre agonie mentale ne serait-elle pas égale à l'agonie sans fin de votre enfant? L'idée de l'enfer, qui est d'origine païenne, est basée aussi sur la parabole mal comprise du mauvais riche et Lazare. Lisons ce récit. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Le riche et le pauvre moururent. Voilà ce qu'indique la première partie de ce récit. On n'indique pas que Lazare alla directement au ciel. Non, il est porté dans le sein d'Abraham. Que signifie cette expression? Parmi les Galates, il y avait aussi des Juifs qui considéraient Abraham comme leur père. Mais en s'adressant aux Galates, à ces gens qui venaient de la Gaule et qui étaient d'origine païenne, l'apôtre Paul déclare « Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Paul veut leur expliquer clairement et simplement que, s'ils appartiennent à Christ, ils sont la postérité, la descendance, les fils d'Abraham, et ils sont automatiquement héritiers de la promesse faite à ce patriarche. Voilà ce que signifie être porté dans le sein d'Abraham. Quand les anges porteront-ils Lazare dans le sein d'Abraham? Lors du second avènement du Christ. C'est ce que nous allons voir ensemble. J'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer que la promesse faite à Abraham n'est pas le ciel. Abraham et ses descendants ont reçu le pays de Canaan en possession perpétuelle. En fait, Abraham a reçu le monde entier en héritage, comme Paul l'écrit. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est ce que Jean confirme en indiquant que les saints régneront sur la terre. Cette promesse englobe l'héritage éternel. Par conséquent, elle se rapporte aussi à la vie éternelle sur cette terre. Cependant, Paul écrit plus de 30 ans après la mort du Christ et sa résurrection, « Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Abraham est héritier de Dieu. Ceux qui deviennent la postérité d'Abraham par Jésus-Christ seront eux aussi des héritiers selon la promesse faite à Abraham. Abraham n'a pas encore hérité de la promesse qui lui a été faite. Par conséquent, tous ceux qui sont sa postérité, sa descendance, ses fils, ne l'ont pas encore reçu non plus, puisqu'un fils ne peut hériter ce que son père ne possède pas encore. C'est pourquoi Lazare n'a pas encore obtenu l'héritage. Quand le recevra-t-il? En même temps qu'Abraham, lorsque le Christ reviendra pour régner sur cette terre. Paul écrit « Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous voyons par ce passage des Écritures que personne n'est déjà avec le Seigneur et qu'Abraham, pas plus que Lazare, n'ont hérité la promesse. Jésus lui-même ajoute « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, et ceci se passera lors de son second avènement, il s'assiera sur le trône de la gloire. Alors, et alors seulement et pas avant, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » C'est donc au moment de la résurrection qu'Abraham prendra possession des promesses qui incluront la vie éternelle et que Lazare sera porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il n'y a rien d'étrange à cela. En effet, nous pouvons lire que « l'Éternel portera son peuple dans son sein ». Et Jean a écrit que Jésus-Christ, le Fils unique, est dans le sein du Père. Jésus a déclaré « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Jésus ne dit pas qu'Abraham vivait lorsqu'il prononça ces paroles. Cependant, les promesses de Dieu sont tellement certaines, tellement formelles, qu'on peut les considérer d'ores et déjà comme accomplies. Abraham est mort, et il l'est toujours. Il en est de même de Lazare. Il est possible que vous pensiez à la transfiguration. Mais j'ai déjà expliqué que cette transfiguration est une vision du Christ venant dans son règne. Rien d'autre. Cette vision est un événement qui doit encore arriver. Il en est de même pour la vision que Jean relate dans le livre de l'Apocalypse. Qu'est-il arrivé au mauvais riche ? Poursuivons la lecture du récit. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans ses jours des morts, il leva les yeux. Il n'est pas dit qu'il fut jeté immédiatement en enfer. Non, il fut enseveli. Il se trouva dans le séjour des morts qui est la tombe. Et là, ses yeux qui s'étaient fermés au moment de la mort, s'ouvrent à nouveau. Si le séjour des morts est l'enfer, alors le Christ y aurait séjourné pendant 3 jours et 3 nuits, puisqu'au jour de la Pentecôte, Pierre annonça « C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue, il s'agit ici de David, et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné, les questions du Christ, dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. » Comprenons donc que Jésus mourut, qu'il fut enseveli et déposé dans le séjour des morts, qui est la tombe. Là, lui aussi leva les yeux au moment de sa résurrection. Le séjour des morts, tant pour le Christ que pour Lazare, est traduit du grec « hadès », ce qui signifie une tombe, un sépulcre, l'endroit où on ensevelit. Dans le récit du mauvais riche et Lazare, on n'indique pas quand le riche leva les yeux. Cependant, d'autres passages bibliques l'indiquent. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Jésus a ajouté, « Car l'heure vient, où tous ceux qui sont dans les sépulcres, et remarquez qu'il n'est pas question ici d'enfer ou de paradis au ciel, entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la vie. Il s'agit de la vie éternelle, comme l'indique le livre de Daniel. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Je vous ai déjà expliqué les 3 résurrections prévu dans le plan divin. Dans ces deux passages bibliques, tirés du livre de Daniel et de l'évangile de Jean, il est question de la résurrection des morts en Christ, qui aura lieu lors de son second avènement, et plus tard viendra la toute dernière, celle des injustes, pour la destruction totale et définitive. Les morts ne savent rien. Ils sont sans pensée. Le riche n'a donc aucune conscience du temps qui s'est écoulé depuis sa mort, et il se trouve au milieu des flammes. Il est devant le châtiment éternel, et non devant un supplice éternel. Il est terrifié. Sa gorge se dessèche. Sa langue se colle au palais. Il est dans l'angoisse, il s'écrie « Père Abraham, aie pitié de moi !» et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Pourquoi quelques gouttes? Pour éteindre les flammes de l'enfer? Non, il voulait se rafraîchir la langue. Subitement, il se voit mortel, tel qu'il était avant sa mort, alors que Lazare est devenu immortel. Il voit les temps de feu, il commence enfin à comprendre qu'il y sera jeté, brûlé et détruit. Relisez tout ce récit, il figure dans le 16e chapitre de Luc. Les méchants qui refuseront de se repentir seront jetés dans l'étang de feu qui ne leur laissera ni racines ni rameaux. Ils s'évanouiront en fumée, ils seront comme de la cendre sous la plante des pieds. Il existe un grand abîme entre le pécheur condamné et le saint glorifié dans le royaume de Dieu. Cet abîme, c'est l'immortalité. Les êtres immortels ne mourront jamais, car la mort n'a point de pouvoir sur eux. Comme vous le savez, le feu ne brûle que ce qui est physique. Ce feu dont il est question dans Malachie 4 et Luc 16 s'éteindra automatiquement, lorsqu'il n'aura plus rien à consumer, et il s'éteindra de lui-même. Le riche fut conscient de la gravité de la situation. Abraham lui avait précisé qu'il était impossible de passer de l'autre côté de l'abîme, séparant le juste de l'injuste. Il savait maintenant que Lazare était ressuscité en obtenant la vie provenant d'une source éternelle. Jésus narra l'expérience du mauvais riche et Lazare afin de dévoiler la vérité sur la résurrection. Il n'enseigna jamais le ciel ou l'enfer comme destination après la mort. Voilà la vraie signification de ce récit. Si à votre tour, vous refusez d'écouter Moïse et les prophètes, alors qu'Abraham le conseille aux frères du mauvais riche, vous n'aurez pas l'espoir du salut. N'oubliez pas que l'Ancien et le Nouveau Testament sont indissociables, car ils se complètent et ils peuvent vous rendre sages à salut.